4 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins et de voisines. Ils ont moins de 18 ans, ils ont quitté leur pays, sans leur famille, pour fuir la guerre ou tenter l'aventure de l'autre côté du monde, là où le droit international protège ce que l'on appelle les mineurs étrangers isolés. Ils étaient 8000 accueillis en 2016 en France. Au bout de l'enfer, comment sont-ils accueillis sur le plan social, sur le plan juridique? Comment les services sociaux discernent les véritables enfants échoués et les autres, également compagnons d'infortune, mais plus âgés? Nous allons en discuter avec vous, Rosaine Lebert, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été éducatrice auprès de jeunes mineurs isolés, sans papier, qui arrivent en France. Vous avez raconté ces entretiens, ces rencontres brèves dans un livre de rêves et de papier. Également avec nous, Amara Makoul, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes rédactrice en chef adjointe à France 24 en charge du nouveau site Info Migrant. Alors pour la langue française, puisqu'il existe en trois langues, c'est fr.infomigrant.net. Des informations vérifiées, diffusées en trois langues pour les migrants qui sont sur les routes vers l'Europe. Vous nous expliquerait ce qu'on peut trouver sur ce site, à quoi sert-il et comment est-il fabriqué pour que ces jeunes ne soient plus à la merci des rumeurs et des passeurs, et pas seulement les jeunes d'ailleurs. Avec nous également, deux jeunes mineurs ont accepté de témoigner avec un autre prénom. Bonjour Mohamed.
Bonjour.
Tu es érythréen, tu as grandi au Soudan et tu es arrivé en France à 16 ans, donc il y a un peu plus d'un an, c'est bien ça?
Il y a un an et quatre mois.
Entre le moment où tu as quitté le Soudan et où tu es arrivé à Paris?
Oui, il y a trois mois.
Moussa est également avec nous, Guinéen, 17 ans, arrivé lui aussi à 16 ans. Bonjour Moussa.
Bonjour, je suis d'origine guinéenne. Je suis venu en France, ça fait environ un an et demi comme ça.
Tu peux citer la liste des pays que tu as traversés avant d'arriver ici?
Bon, ça dépend. Tu peux juste premièrement passer au Mali. Une fois arrivé au Mali, il y a en ce moment des trajectoires qu'il faut suivre. Il y a d'autres qui, du Mali, Algérie, passent au Maroc. Et d'autres aussi, à partir du Mali, pour tout passer vers le Burkina, le Niger, c'est un peu long. Après, il vient à l'Algérie et il passe par la Libye. C'est les deux trajectoires qu'il faut faire pour arriver en Europe.
Et vous les connaissez bien, elles sont souvent gravées dans le disque dur. Les fameuses routes migratoires, on en discutera aussi avec vous, Amara Makoul. Mais tout de suite, écoutez le témoignage de Sami Nouri. Il est arrivé seul en France à 14 ans. Il est afghan, il a vécu en Iran, réfugié avec sa famille, privé d'école. Il travaille alors avec son père, dès l'âge de 10 ans, comme tailleur, couturier. Et puis c'est la fuite vers la Turquie, où il est confié à un passeur pour la France. Victoria Koussa a recueilli son témoignage.
Quand on a décidé de partir, quitter l'Iran pour venir en Europe, on a décidé fin 2010, je crois. J'avais 14 ans et on a trouvé des passeurs. C'était très compliqué parce qu'en fait, tu joues avec ta vie, quoi. Tu montes dans les montagnes, 9h ou 10h du marche, à pied, à faire. Bah moi, je suis parti seul avant de mes parents. Et normalement, je devrais rejoindre mes parents une semaine après. Mais en fait, le passeur, quand il m'a emmené, il m'a abandonné devant la gare. Et moi, je n'étais pas au courant de mes parents où ils sont. Gare de Tours. Je suis arrivé à la gare et voilà. Il m'a dit d'attendre un endroit pour qu'il va chercher la voiture. En fait, il est parti, il n'est jamais revenu. J'avais trop peur, j'ai dit mais qu'est-ce qui va se passer après? Je savais pas trop comment je vais faire. J'ai resté le soir dans la rue jusqu'au lendemain. Et le lendemain, en fait, il y a des policiers qui m'ont récupéré, ils m'ont emmené au commissariat. On a resté pendant quelques heures dans leur bureau. Voilà. Après, ils ont appelé des traducteurs, ils n'ont pas trouvé. Ils ont juste demandé mon âge en dessinant sur le tableau un gâteau avec des bougies en chantant le joyeux anniversaire. Ils chantaient, ils me demandaient mon âge hein, sur le chiffre, en fait, 15, 16, 17. Et moi, j'ai montré le 14. Et ils étaient super gentils. Ils m'ont placé au foyer. Voilà, j'étais pas bien au début, j'étais trop triste. Je mangeais pas pendant un mois. Et moi, le prof, il disait, t'as pas le niveau de passer bac pro, il faut y aller au CAP. Mais au dernier moment, grâce à ma prof principale, qui avait fait toutes les démarches pour que je puisse y aller au lycée bac pro dans la motte, quand le prof principal de lycée, quand il a vu comment je travaille, il était toute contente, il était voilà, il dit mais comment ça se fait tu connais comme ça. Et en première année il fallait faire des stages dans des entreprises et j'ai envoyé 70 lettres de motivation, des CV, des photos à toutes les grandes entreprises et j'ai reçu une réponse positive chez Galieno. J'ai fait 3 semaines de stages là-bas, après j'ai voilà, ça a enchaîné quoi. J'oublie pas toutes les galères que j'ai eues avant. J'ai toujours le pied sur terre. J'ai un passé très compliqué. Je suis arrivé, je rencontre de belles personnes. Toujours il y a des gens pour moi là. Et... non, je trouve incroyable. Et c'est pour ça que j'ai essayé de plus tard faire un livre ou faire un film.
C'est le témoignage de Samy. Il n'a plus de nouvelles de son père resté en Iran. Est-ce que vous vous reconnaissez, Mohamed, Moussa, tous les deux dans ce témoignage, bien que vous ayez des histoires très différentes?
Oui, c'est le même parcours qu'il faut. Tu peux être accompagné d'un passeur, tu peux être tout seul, tu peux être dans le groupe avec des gens que tu ne connais même pas, venant de différents pays. Parfois, on vous suit, on vous torture. Voilà, on vous prend, on vous envoie à des endroits, on vous laisse abandonner et vous vous débrouillez vous-même. Maintenant, parmi vous, il y a des personnes gentilles et bon. Il y a la solidarité parfois même entre ces migrants, mineurs, majeurs ou quoi, qui s'entraident beaucoup et jusqu'à vraiment à atteindre, c'est-à-dire leur objectif d'accéder en Europe. Mmh. Voilà, c'est ça.
Rosane Lebert, vous avez travaillé dans un centre d'accueil pour le compte d'un conseil départemental. Hein. Qui sont les mineurs non accompagnés que vous aviez à recevoir dans ce centre d'accueil?
Par mineurs non accompagnés, on entend des enfants de moins de 18 ans qui se trouvent sans représentant légal en France et qui sont de nationalité étrangère. Et en fait, au niveau du droit, ces mineurs isolés étrangers, maintenant mineurs non accompagnés, mais c'est la même chose, c'est la terminologie qui a changé. Au niveau du droit, ils bénéficient des mêmes droits que n'importe quel enfant de nationalité française qui ne pourra pas vivre avec ses parents pour une raison ou pour une autre. En fait, les mineurs non accompagnés rentrent dans le droit commun de la protection de l'enfance en tant qu'enfants sans leurs parents sur le territoire. Et c'est bien pour ça que le statut de mineur isolé est important, puisqu'il permet d'accéder à ces droits-là, et notamment le fait d'être placé en foyer de protection de l'enfance.
D'être logé, hébergé.
Exactement.
Et d'être scolarisé, mm-hmm. ou d'accéder à une formation professionnelle en fonction de l'âge. Quel genre de parcours vous avez vu passer pendant ces 547 jours ?
À la fois, chaque histoire est unique parce que les raisons de partir sont multiples. Chaque jeune a son histoire et ses raisons qui l'ont poussé à partir. Et à la fois, il y a beaucoup de similitudes sur les parcours migratoires qui sont tous extrêmement violents, sans exception. Puisque, comme les garçons l'ont expliqué, ils sont aux mains des passeurs, soit sur tout le trajet, soit sur au moins certaines étapes du trajet. Donc c'est un parcours qui est très très violent. Et quand ils arrivent, souvent, ils ont l'impression que ça y est, c'est la fin, et qu'ils vont enfin pouvoir se poser. Et le problème, c'est qu'il y a un autre parcours qui commence à cette étape-là, le parcours administratif, qui parfois est tout aussi violent que le parcours migratoire. C'est pas les mêmes formes de violence, mais on peut trouver de la violence institutionnelle. Il y a des jeunes qui se retrouvent à la rue pendant cette période-là, alors qu'ils sont censés être hébergés quand ils se présentent en tant que mineurs sur le territoire. Et du coup, parfois pour certains, l'expérience de la rue en France est aussi violente que l'expérience du parcours migratoire.
Est-ce que vous saviez tous les deux, Mohamed et Moussa, qu'en tant que mineur, vous n'étiez pas expulsable si vous étiez bien reconnu comme mineur?
Moi, je ne savais pas. Il y a ces droits-là. Quand j'étais au Soudan, j'avais arrêté à l'école.
Tu avais 12 ans, c'est ça, quand
j'avais
tu as arrêté 12 ans. L'école
mmh. Oui. Et là, j'avais très envie d'aller à l'école et tout. Après, moi, j'ai cherché tout seul. J'ai demandé les gens quand ils étaient déjà ici à l'école et tout. Ils m'ont dit qu'il faut aller faire un test de CASNAV pour aller à l'école. J'étais au bureau de France Terre d'Asile. Et après, j'étais accepté.
C'est-à-dire qu'en fait, tu es entré dans toute une procédure hein, pour que les autorités françaises puissent évaluer si effectivement tu étais un mineur ou pas, Rosane Lebert.
Oui, alors juste un petit point au niveau de la loi. Effectivement, quand un mineur se présente sur le territoire, en théorie, il doit être hébergé pendant 5 jours. Et durant ces 5 jours-là, le conseil départemental, qui est compétent en protection de l'enfance, doit vérifier qu'ils sont mineurs et isolés.
C'est ça. Donc ces 5 jours, c'est une forme de flou. C'est-à-dire qu'on n'est ni mineur ni majeur. On ne sait pas encore, hein, c'est ça?
C'est exactement ça. Mais si ça durait que 5 jours, ça irait encore. Et s'ils étaient effectivement mis à l'abri pendant ces 5 jours, ça irait. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus long. Et que la plupart des jeunes sont dehors pendant cette période. Et donc, comme Mohamed, ils se retrouvent à se débrouiller tout seuls pour l'inscription à l'école et pour développer des stratégies de vie et de survie.
Parce que les autorités sont débordées, parce que le nombre de mineurs aussi isolés a explosé ces dernières années. C'est un phénomène relativement récent tout de même.
Oui, mais on est loin d'être sur une explosion. Là, en 2016, on était à 8000 et 2015, on était autour de 6000. Donc, l'explosion n'est pas immense. 8000 mineurs isolés sur le territoire. territoire pour un pays de 65 millions d'habitants, je pense que ça reste très raisonnable. Et donc, il doit y avoir aussi certainement une question de volonté politique derrière.
Et pour toi, Moussa ?
Moi, je peux dire que le terme mineur isolé, c'est en France que je l'ai découvert. Quand on arrive même, par exemple, en Italie ou en Espagne, ils nous disent que bon, on ne vous sait pas, vous êtes avec les adultes. Souvent, même les campements sont différents. On dit ça, c'est un campement d'urgence des mineurs, ceux qui ont moins de 18 ans, on vous met par là. Et les majeurs, on les met par là. Déjà, à partir de ça, on peut comprendre que forcément, il y a une protection de là, qui est derrière ces mineurs-là. Et à partir de là-bas, on a compris que oui, que c'est possible vraiment d'avoir ces aides-là et une protection.
C'est un vrai parcours aussi administratif, vous le disiez, voilà. Rosaine Lebert, hein, pour qu'on arrive à déterminer l'âge de ces enfants, s'ils sont des enfants, des mineurs ou pas, nous allons en discuter. Qu'est-ce qui permet de déterminer l'âge? La circulaire Taubira 2013 recommande une utilisation de faisceaux d'indices, tout ça n'est pas toujours simple, on en discute dans quelques instants. Do I echo on anyone standing out there? Tell me, is any further than it needs to be? Will anybody just see him stare at them faces? Oh, I swear, it's keeping me up all night. And it's far from getting much easier. I'm just hiding. Belong to this never-ending fantasy. I'd come home in the blink of an eye, in the blink of an eye. And it's far from getting much easier. I'm just hiding. C'est Or chez 7 milliards de voisins sur RFI. Rosaine Lebert, vous publiez De rêves et de papier. Vous avez consigné ces rencontres lorsque vous avez travaillé dans ce centre d'accueil pour jeunes du conseil départemental où vous recevez aussi bien d'ailleurs des mineurs français que ces mineurs isolés étrangers. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui de déterminer l'âge de ces jeunes qui demandent assistance et protection arrivés sur le sol français?
Alors, c'est très compliqué. Avant, pendant longtemps, on a utilisé les tests médicaux qui sont souvent connus sous le nom de tests osseux, où des médecins pratiquaient une radiographie au niveau du poignet qui était censée estimer l'âge du jeune. Sauf que nombreux médecins se sont positionnés contre ces tests osseux et à raison, puisque la fiabilité est très très contestée et la marge d'erreur est très très grande. On est à plus ou moins un an et demi autour de 18 ans, donc pour un test osseux qui déclare 18 ans, le jeune peut avoir 16 ans et demi comme 19 ans et demi. Du coup, en 2013, a été introduite la circulaire Taubira qui essaye de contourner le test osseux en favorisant une autre forme d'évaluation qui est appelée évaluation sociale. Et le principe, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est le faisceau d'indices. Ça veut dire que le département va regarder les papiers d'identité du jeune, ses déclarations, regarder si ces déclarations correspondent aux papiers d'identité, par exemple sur les âges des parents, des frères et sœurs, sur la scolarité, il va chercher à savoir à quel âge l'enfant a commencé l'école et si ça correspond bien à ses déclarations, etc. Et c'est là où le bas blesse, il va également s'attacher à voir si le comportement et l'apparence physique peuvent correspondre ou non à l'âge annoncé. Et donc là, on voit bien toute la subjectivité de la méthode. Et c'est pour ça que c'est une méthode qui est elle-même assez contestée. Les tests osseux étaient contestés à raison et cette évaluation sociale, je crois, peut être contestée aussi à raison.
Alors, il y a, vous citez le cas de jeunes qui sont déclarés mineurs, par exemple, en Allemagne, majeurs en France, hein, en fonction des entretiens, en fonction des évaluations.
Tout à fait, même d'un département à l'autre, hein, on n'a même pas besoin de changer de pays. Il y a des jeunes qui sont refusés par un département, qui tentent leur chance ailleurs et qui peuvent être pris en charge. En fait, comme on est sur des méthodes extrêmement non fiables, extrêmement subjectives, forcément, l'erreur est possible dans les deux sens.
C'est quelque chose qui est mal vécu pour des gens comme vous, qui avez travaillé dans ces centres d'accueil. Un poids, une responsabilité difficile à porter.
Bien évidemment. Alors juste pour préciser, c'est pas nous les travailleurs sociaux qui prenons la décision. Mais nous, on est chargé de l'entretien avec le jeune et de recueillir toutes ces déclarations
qui vont mener au rapport. Donc tout de même la responsabilité de la conclusion de l'entretien tout de même.
Pas la conclusion, enfin vraiment c'est important puisque voilà, ça a été, il y a eu pas mal d'erreurs à ce sujet-là. Nous, on recueille les informations, on produit une note d'aide à la décision. Le département reste décisionnaire. Par contre, effectivement, on produit un rapport qui doit guider la décision. Ça veut dire que le conseil départemental va nous pousser, nous travailleurs sociaux, pour creuser sur les éléments qui vont lui permettre de prendre leur décision.
C'est-à-dire à détecter les incohérences du parcours du jeune, par exemple ?
Le problème, c'est ça, c'est qu'on bascule de plus en plus vers une présomption de majorité où on va essayer de chercher la petite bête, de chercher l'incohérence pour mener à un refus de statut. Et ça, c'est très problématique.
Vous, comment vous avez vécu, Mohamed, Moussa, ces entretiens ? Mohamed, tu as eu des entretiens longs pour que l'on évalue ton âge quand tu es arrivé à 16 ans en France ?
Oui, au départ, j'ai fait un entretien. Ça durait une heure à peu près. On parlait de tout, le parcours que j'avais fait, la famille et tout, avec un interprète. Des fois, on a des difficultés de comprendre. Parce qu'il y a des interprètes qui ne parlent pas très bien. Ouais, c'est bon, ils parlent bien le français, mais ils ne parlent pas notre langue. Mmh. Oui, moi, je pense que ça va faire des problèmes.
Et pour toi, Moussa ?
Heureusement, je me débrouille en français. À mon niveau, j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, un français, parce que je n'avais pas besoin d'interprète. Mais au début, ils m'ont imposé un peu, mais j'ai dit non, moi, je vais parler en français. Parce que j'ai des amis qui ont subi ce problème-là.
Tu n'avais pas confiance dans l'interprète, c'est cela ?
J'avais peut-être confiance, mais du coup, comme moi j'étais à la salle d'accueil et de réception, il y a des amis qui ont fait leur entretien en la langue, mais après, la traduction au monsieur qui écrit en français, ce n'était pas cohérent. Du coup, comme moi j'ai subi ça, chaque personne qui sort, j'étais inquiet, je ne sais pas, j'ai peur. Je leur demande comment ça se passe quand ils me disent. Du coup, moi aussi, j'ai insisté que je veux essayer de me débrouiller en français. Le monsieur français qui est devant moi, il va savoir la vraie histoire que je lui dis et ce qu'il va écrire. Du coup, ça m'a beaucoup aidé sur mon histoire, que je l'ai vraiment raconté. L'histoire que j'ai dit, ça a été validé, que tout ce que j'ai dit, le monsieur qui m'a évalué, que c'est cohérent par rapport à l'âge que j'ai donné. Mais par après, moi, ça n'a vraiment pas marché, ça a raté. Du coup, ils n'ont pas accepté avec l'histoire que j'ai faite. Oui. Mais pour la décision à l'âge d'enfance, comme je les ai
que ton parcours était cohérent. Nous allons bien sûr y revenir hein, à tout ce système pour permettre de déterminer l'âge de ces jeunes, s'ils sont mineurs ou majeurs, parce qu'évidemment, toute la suite du parcours dépend de cette détermination. Amara Makoul, vous êtes rédactrice en chef adjointe du site Info Migrant. Évidemment, ce sont... Alors, on va bien sûr expliquer dans quelques minutes après le flash comment fonctionne ce site, puisqu'il est tout nouveau. Mais ce sont bien sûr des sujets que vous traitez sur ce site Info Migrant.
Oui, que nous traitons, que nous devons traiter. Aussi, ma participation à cette émission aussi me fait prendre conscience de tout un tas de questions que j'imagine des migrants mineurs comme vous doivent se poser avant d'arriver en Europe, avant même de prendre la route. L'idée d'InfoMigrant, c'est de leur apporter beaucoup de réponses, d'essayer d'être le plus exhaustif possible, de répondre à des questions qu'ils se posent. Et pour parler concrètement, par exemple, cette histoire d'interprète est intéressante, leur dire que, par exemple, un interprète est prévu, mais via des témoignages de personnes qui sont déjà passées par là, leur expliquer la problématique, leur expliquer par exemple certains choix qui ont été faits par d'autres migrants, parce qu'Info Migrant est aussi un site participatif. C'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, les journalistes, nous donnions des informations vérifiées et fiables à des personnes qui veulent migrer, mais aussi, surtout, d'apporter des témoignages de migrants eux-mêmes qu'ils nous enverraient, que nous, on vérifierait et que d'autres migrants pourraient lire. Et on a commencé à en produire et notamment à demander des conseils.
C'est vraiment la guerre de la rumeur, en fait. Hein. C'est la guerre contre la rumeur pour donner des informations vérifiées et fiables aux migrants qui sont sur les routes vers l'Europe. Vous restez avec nous, Amara Makoul, Rosane Lebert, Mohamed, Moussa. On se retrouve dans 3 minutes, juste après le flash, pour la suite de l'émission. 7 milliards de voisins.
On est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins. Nous parlons des migrants aujourd'hui, mais de ces migrants un peu particuliers, mineurs isolés. Rosane Lebert, vous publiez De rêves et de papiers, 547 jours avec les mineurs isolés étrangers. Ce sont des histoires, des parcours issus de votre expérience d'éducatrice dans un service d'accueil pour des jeunes. Amara Makoul, vous êtes rédactrice en chef adjointe à France 24, en charge du nouveau site Info Migrants. Alors pour la langue française, c'est fr.infomigrants.net. Et puis nous sommes aussi avec deux jeunes mineurs, mineurs plus pour très longtemps d'ailleurs. Mohamed, 17 ans, érythréen, grandi au Soudan. Vous êtes arrivé en France à 16 ans par la Libye. Et Moussa, guinéen, 17 ans aussi, vous êtes arrivé à 16 ans. Vous êtes vous aussi d'ailleurs.
15 ans et demi comme ça.
15 ans et demi, tu as raison, il faut être précis. 15 ans et demi. Et tous les deux, en tout cas, vous êtes scolarisés aujourd'hui. Vous êtes en classe de seconde. Et bien sûr, on va parler de votre projet scolaire parce que vous avez des projets. Nous étions juste avant le flash en train d'évoquer le site Info Migrants, Amara Makoul, parce que évidemment pour le sujet des mineurs isolés, il y a tout un déficit d'informations sur ce qui va se passer une fois arrivés dans les pays européens, sur les procédures. Ils ont bravé des parcours extrêmement durs, vous l'avez expliqué, Rosane Lebert. Ils sont plus que les autres encore sujets à des violences. Et donc, une fois arrivés en Europe, il y a ce dédale administratif.
Un vrai dédale administratif, beaucoup de démarches qui parfois peuvent décourager. Donc l'idée d'InfoMigrants, c'est de les informer sur ces démarches, que ce soit pour la régularisation des papiers, par exemple les demandes de statut mineur isolé après la demande d'asile, etc., mais aussi pour des choses très concrètes, l'inscription à l'école, le système de santé, comment ça marche, comment se passe le système scolaire en France, quelles possibilités s'offrent à un étudiant lambda, quels sont les débouchés, après, par la suite, comment chercher du travail, comment candidater à un emploi, parce que c'est pas pareil dans tous les pays. Et puis, comme je le disais, c'est un média participatif, donc on appelle en fait aux témoignages et aux questions.
Déjà, on apprend beaucoup en lisant les histoires des autres, forcément, voilà, aussi.
Mais parce que,
plutôt
comme
que des fiches administratives un peu froides qui sont toujours plus compliquées à décrypter, surtout quand on est très jeune.
Justement, on compte diffuser, distiller ces informations au fil des histoires qu'on raconterait, parce que l'idée, c'est aussi de tendre aux migrants un miroir en leur racontant l'histoire d'autres personnes qui sont passées par là avant. Et comme le disait Rosane Lebert tout à l'heure, tous les parcours sont différents. Et donc cette diversité est une richesse, puisque chacun a aussi quelque chose à nous dire d'utile. Par exemple, l'un aura eu des difficultés, par exemple, pour le logement. Et bien là, ça nous donnera l'occasion de parler de ça. L'autre aura eu des difficultés, par exemple, pour faire appel d'une demande rejetée devant la justice. Et bien, on pourra parler de ça. D'autres auront eu des difficultés sur le parcours ou avec les passeurs. Et voilà,
mais ça, par ces informations, vous incitez ou vous découragez ?
Alors voilà, il ne s'agit ni d'inciter ni de décourager. La mission vraiment, c'est d'informer.
Le soupçon, c'est ça, c'est que vous créez le fameux appel d'air qui est devenu un concept politique.
Alors la jeunesse du site, elle est la suivante. En plein cœur de la crise migratoire, les présidents de France Média Monde, donc la maison mère de RFI, France 24 et Monte Carlo Doualia, et puis le président Deutsche Welle, ont eu l'idée qu'il fallait faire quelque chose, fallait agir. Ils ont décidé d'agir dans les domaines dans lesquels ils étaient des professionnels reconnu l'information. Ils se sont dit que si on arrive à contrer les discours véhiculés par les passeurs et aussi les intox que les migrants trouvent tout seuls sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, on pourrait peut-être faire quelque chose pour éviter qu'autant de personnes périssent dans la Méditerranée. Et la Commission européenne, séduite par le projet, a accepté de le cofinancer. Et le projet maintenant est mené par France Média Monde, Deutsche Welle et aussi l'agence italienne ANSA. Et donc voilà, comme vous disiez, ce n'est ni d'inciter ni de dissuader. C'est d'informer et d'offrir une vision la plus équilibrée possible et la plus proche de la réalité possible pour que la personne qui souhaite partir, qui est contrainte de partir, sache où elle va mettre les pieds et à quoi s'attendre.
Mais vous tous les deux, Moussa, Mohamed, est-ce que vous aviez été bien informés avant de partir et durant votre trajet migratoire qui a duré plusieurs mois ?
Quand je quittais le Soudan, je ne savais pas il y a quoi que je vais trouver en Europe. Mais c'était juste moi. Je partais juste pour améliorer ma vie, pour trouver l'école.
C'est-à-dire que tu ne savais pas ce que tu allais trouver, ni sur la route, ni à l'arrivée ?
Non, je ne savais pas du tout. Mais
certains t'avaient informé, tu avais entendu des témoignages ?
Oui, j'ai regardé sur Internet, sur Facebook, Oui, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui mettent des
photos.
Des gens
qui parlent et qui postent des photos.
Oui, qui postent des photos jolies et tout, mais ils ne disent pas que la route est très difficile.
Les plages de Nice, ça peut être très joli en effet, voilà. Mais pas pour tout le monde, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Et pour toi, Moussa?
Moi aussi, c'est pareil. Et à Ndebi, c'était compliqué. On ne savait pas du tout qu'est-ce qu'on allait trouver une fois arrivé ici. Avec les images qu'on apprend, les gens qui volent là-bas, qui quittent en Europe, qui arrivent là-bas, qui font des choses, qui même nous, on se demande comment est-ce qu'ils ont eu tout ça. Et nous aussi, on a eu vraiment cette ambition-là. Quand on arrive, c'est comme si on tombe dans un paradis, que tout va bien, tout va se résoudre, c'est-à-dire une fois qu'on arrive là. Mais une fois qu'on est arrivé sur le terrain, on a vu le contraire. C'est-à-dire de ces images, de ces transmissions qu'on recevait. Et du coup, on a vu la vraie réalité sur le terrain, qui était vraiment contraire à ce qu'on nous disait, à ce qu'on voyait sur l'image, à ce qu'on voyait sur les médias et tout. Du coup, ce n'était pas traité de façon correcte, les informations, de bouche à oreille. Et du coup, c'est vraiment une vie qui est très compliquée pour nous.
Mais aujourd'hui, tout de même, on ne manque pas d'images qui montrent la réalité, notamment de la traversée de la Méditerranée, par exemple, des séjours en Libye. Tout ça, aujourd'hui, est documenté par les migrants eux-mêmes, par les reportages, par les images diffusées sur les chaînes de télévision, même pour ceux qui ne comprendraient pas les langues internationales.
Oui, justement, c'est presque ce que vous avez dit, ce que je veux dire. Mais j'ai dit juste que des personnes qui arrivent vraiment, qui vivent ici et qui se déplacent vers le pays où nous sommes, et nous, on ne connaît jamais ici, on connaît seulement que France ou Allemagne. Du coup, et ce qu'ils nous transmettent, c'est totalement différent de ce que nous on a vécu ici.
Oui, mais il y a des expatriés qui rentreraient.
Voilà, justement.
À Maramakoul.
Voilà, c'est contraire. Mais par rapport aux médias, quand même, les journalistes, là, c'est vraiment, on voit, ils nous disent que vraiment, ce n'est pas du tout facile. Oui. Mais juste, ils font quand même du travail que nous, quand on voit, ils nous conseillent même. S'il l'a traversé, il y a des journalistes qui viennent, qui vous demandent est-ce que vous avez quelque chose à dire, comment vous avez pas votre trajet. Ça, moi, je trouve ça vraiment très bien, parce qu'ils nous informent déjà à temps avant que nous venions au terrain. C'est-à-dire en France, par exemple.
Mais tes amis en Guinée qui souhaitent faire vivre la même aventure que toi, je le dis avec beaucoup de guillemets, mais je crois que c'est un terme qui est souvent utilisé dans les entretiens que vous avez menés, Rosane Lebert. Hein. Faire l'aventure pour ceux, en tout cas, qui quittaient un pays qui n'était pas en conflit. Puisque c'est ton cas, hein, Moussa. Tu as quitté un pays qui n'était pas en guerre.
Pas en guerre, mais il y a aussi quelque chose qui est plus que la guerre. Parce qu'il y a un problème politique qui est là-bas, qui est connu. Et aussi, il y a un problème d'ethnocentrisme ou racisme qu'on dit entre peu les Malinké, qui est grave, qui existe, qui persiste avec le pouvoir. Voilà.
Ce sont les raisons qui t'ont poussé à partir. Mais pour les jeunes qui sont restés au pays, qui voudraient vivre, tenter la même aventure que toi, que savent-ils aujourd'hui des réalités? Est-ce que tu les as informés? Est-ce que tu dis la vérité ou pas, toi?
Bon, moi, consciencieusement, moi, je peux le dire, par exemple, que la vraie vérité, qu'ils peuvent peut-être essayer parce que chacun cherche vraiment d'être protégé ou de trouver une meilleure vie que la mienne que nous avons chez nous. Du coup, si ils veulent venir, je ne vais pas les dire que d'arrêter de ne pas venir. Ils peuvent tenter leur chance. Mais surtout d'en savoir qu'une fois qu'on est là, il faut beaucoup, c'est-à-dire se battre. Il y a l'aide, bien sûr, mais ce n'est pas de façon facile, quoi. Qu'il faut vraiment venir comme découvrir. Moi, je ne vais pas les mentir, comme c'est ce que j'ai subi.
Parce que tu as été reconnu comme mineur isolé. Alors, il faut le dire aussi, Rosane Lebert, il existe un véritable business ou trafic de mineurs isolés à l'heure actuelle.
Oui, oui. Bon, encore une fois, chaque situation est particulière, mais ils sont évidemment très vulnérables aux réseaux, notamment de réseaux de prostitution, etc. Donc certains, dès le départ du pays, en fait, vont être pris en charge par les réseaux, vont venir en avion par la voie clandestine, et arriver en France, on va leur demander de rembourser le coût du voyage, et à ce moment-là, le travail entre très énormes guillemets qui va leur être demandé pour rembourser ce voyage, ça va être la prostitution. Il y a tout un tas d'autres réseaux, mais effectivement aussi sur le trajet, on ne peut pas s'en sortir sur certaines étapes sans les passeurs. Je pense notamment à la traversée du désert et la traversée de la Méditerranée pour ceux qui viennent, comme Moussa et Mohamed, d'Afrique subsaharienne. Et donc, évidemment, les mineurs sont les plus vulnérables dans ce grand marché.
Il y a aussi des locations de faux passeports pour arriver, alors là, par une voie beaucoup plus sûre, par avion, à Roissy, que vous évoquez dans votre livre, notamment pour des jeunes Congolais.
Oui, bah c'est vrai que c'est quelque chose qui est moins connu. Quand on pense à l'immigration clandestine, on pense forcément aux arrivées par la mer, alors qu'effectivement, il y a des jeunes qui rentrent aussi par les aéroports. Ça coûte une fortune à leur famille, parce qu'au-delà du prix du billet d'avion, il faut effectivement payer le passeur avec tous les risques qu'il prend. Donc forcément, le prix augmente avec les risques que le passeur prend. Mais il y a des jeunes qui se font aussi refouler directement, puisqu'il y a une zone d'attente à Roissy, quand les autorités ont des doutes. Donc ils peuvent être placés directement en zone d'attente et refoulés immédiatement, hors du cadre de protection de l'enfance, du coup. Mais oui, il y a de multiples voies. Il y a aussi, j'imagine, des personnes qui rentrent de façon légale et qui deviennent illégales à expiration de leur visa, etc.
Amara Makoul, vous relayez ça aussi, les filières, les trafics, les magouilles, qui bien souvent fonctionnent d'ailleurs.
Ça fonctionne, les migrants tombent dans le piège. On a eu l'occasion avec InfoMigrant de publier récemment un article. En fait, on est entré en contact avec un passeur qui est basé à Izmir en Turquie, et on a enregistré la conversation avec lui. On lui a parlé en arabe, et en fait il nous explique tous les prix qu'il demande, pour quel type de voyage. À l'entendre, les choses sont simples, sans danger, sans risque. C'est assez édifiant ce qu'on a publié avec lui. Puis on a confronté son interview au témoignage d'un migrant qui avait fait le trajet via un passeur également, qui nous disait: mais en fait c'est faux, moi aussi un autre passeur du même type m'a dit exactement la même chose, mais les risques sont beaucoup plus grands, ça m'a coûté beaucoup plus cher, parce qu'en fait souvent les passeurs annoncent un prix puis redemandent encore plus d'argent pour une autre étape sur le trajet, parce que la traversée s'est pas faite, ou pour X ou Y raison, et surtout les risques encourus sont énormes, et bien plus que ce que disent les passeurs.
Et si je peux me permettre de compléter, notamment en Libye, ce qui se pratique beaucoup, c'est qu'ils forcent les gens à rentrer dans les bateaux quand ils arrivent sur la plage. Donc ils ont promis tel bateau très solide, etc.
Pour ceux qui changeraient d'avis à la dernière minute,
c'est ça.
Aussi,
et quand effectivement les personnes qui vont traverser voient l'état du bateau, elles veulent refuser de monter, et là on les force à monter dans le bateau en les menaçant par des armes, parce que s'ils montent pas, ils vont informer, justement, et c'est là où on revient à toute l'importance de l'information, ils vont informer les autres que ce passeur n'est pas fiable. Donc c'est pas dans l'intérêt du business du passeur que l'information circule sur la qualité très mauvaise de ces bateaux.
Alors que se passe-t-il une fois que ces mineurs sont arrivés en Europe et qu'ils sont reconnus comme mineurs isolés étrangers? Quel droit à la scolarisation? Comment se construisent-ils aussi un parcours après plusieurs mois où ils sont dans l'immédiateté, dans le présent, dans la survie? Nous en parlons dans quelques instants. Excuse me for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. I've excused you for a while I'm wide-eyed and I'm so down caught in the middle. Turn a blind eye with a stare caught right in the middle. C'est Strong, London Grammar, chez 7 milliards de voisins sur RFI. Nous parlons du statut et de l'accueil de ces mineurs isolés étrangers en France, mais aussi ailleurs en Europe. Quel droit à la scolarisation, Rosane Lebert?
La première des choses, effectivement, c'est que les mineurs sont inexpulsables. Par nature, les mineurs isolés n'ont pas besoin de titre de séjour, puisqu'ils n'ont pas à prouver le fait qu'ils ont le droit de rester sur le territoire. En tant que mineurs, ils ont le droit d'être là et sans titre. Et donc, comme je le disais en début d'émission, ils vont avoir les mêmes droits que tout enfant français, et donc notamment le droit à la scolarisation et à la formation. Et souvent, c'est la première chose qu'ils nous disent quand ils arrivent, c'est « moi, je veux aller à l'école ». Et c'est là où c'est terrible quand ils doivent attendre des mois et des mois avant d'être pris en charge, parce qu'ils perdent du temps pour l'apprentissage du français. Ça leur fait un trou dans leur scolarité, du coup, entre le départ du pays et la reprise de la scolarité ici. Et donc, heureusement, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent, beaucoup de chefs d'établissement, beaucoup d'enseignants qui se mobilisent pour la scolarisation de ces mineurs. Mais parfois, il y a des trous assez conséquents. Et il faut aussi le lier à la qualité de la prise en charge, puisque certains jeunes sont placés à l'hôtel pendant très longtemps. Et être scolarisé quand on est à l'hôtel, c'est quand même pas évident pour faire ses devoirs le soir, etc.
Globalement, on est confié à l'aide sociale à l'enfance avant 15 ans. On peut demander d'ailleurs la nationalité française.
Alors en fait, oui, quand un mineur arrive et est pris en charge avant 15 ans, il peut acquérir la nationalité française de droit à 18 ans. Mais c'est assez rare. La plupart des jeunes ont entre 15 et 18 ans quand ils arrivent.
Et alors ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Globalement, on a le sentiment que plus les mineurs isolés arrivent jeunes sur le territoire français, plus ils sont accueillis dans une procédure favorable. Et plus ils arrivent proches de l'âge de la majorité, plus ça va être très difficile pour eux.
Encore une fois, on est sur des questions de volonté politique, beaucoup. C'est vrai que les moins de 15 ans vont être plus facilement placés dans des foyers de protection de l'enfance classiques, en fait, avec des jeunes français, et voilà, dans des foyers avec des cadres très protecteurs, avec une équipe éducative conséquente, etc. Et plus ils vont s'approcher de la majorité, plus on va les placer dans des hôtels. Donc on va choisir des solutions temporaires. Et du coup, parce que aussi à 18 ans, quand la prise en charge s'arrêtera, non seulement souvent on les sort de l'hôtel, parfois le jour anniversaire de leurs 18 ans, alors que c'est des jeunes qui sont scolarisés, etc. Et forcément, le choix par les autorités de ces solutions si temporaires qu'un hôtel, ça donne quand même des indices quant à la politique de protection de l'enfance pour ces jeunes. Et je pense que oui, on peut écouter.
Justement, alors où est-ce que vous en êtes l'un et l'autre? Tous les deux, vous êtes aidés par l'aide sociale à l'enfance pour votre dossier, pour la suite, puisque vous avez 17 ans, Mohamed?
Après, moi, j'ai le droit de demander un contrat de jeune majeur à l'aide sociale à l'enfant, l'ASE. Et pour faire ce contrat, il faut déjà avoir un éducateur référence. Et comme moi, il y a beaucoup de gens ici comme moi, on n'a pas d'éducateur référence pour faire ce contrat.
Pourquoi tu n'as pas d'éducateur référent?
Je ne sais pas, parce que moi j'étais placé à l'hôtel dans une période prévisoire. Mais là j'ai resté plus qu'un an. Et ça, c'était pas normal comme... On était en période prévisoire, en fait.
Et comment ça se passe au lycée?
Au lycée, aussi, il y a beaucoup de difficultés. Dès le début de l'année, pour acheter les fournitures scolaires et pour payer la cantine, il faut qu'il y aille là-bas, au LASE, pour demander. Mais une fois qu'il y allé là-bas, elle te dit qu'il faut aller acheter les fournitures d'abord. Elle nous ramène des factures.
Oui, mais toi, tu n'as pas d'argent pour aller acheter tes cahiers.
De base, j'ai pas d'argent. Ça.
Oui. Et tu ne peux pas travailler. Tu n'es pas autorisé à travailler.
Tu n'as pas autorisé à travailler parce que tu es mineur. Et encore, tu es mineur et tu n'as pas tous tes droits, en fait.
Et ouais. Pour toi, Moussa?
Bon, moi aussi, c'est pareil. Sauf que la seule chance que j'ai eue, j'ai tellement galéré, je n'ai pas eu une chance rapide d'être avec l'ASE. Mais bien c'est là, oui, j'ai eu quand même pas mal de contacts avec, grâce à la brave femme, mon avocate, Catherine, qui m'a vraiment aidé, et avec une association Parcours d'exil, qui aussi vraiment m'a soutenu pendant 6 à 7 mois. J'ai été reconnu mineur, mais jusqu'à ce moment, l'ASE ne m'a pas encore pris.
Donc en fait, c'est le monde associatif là, qui t'aide aujourd'hui.
Justement.
Ce sont donc des militants, des gens
voilà,
engagés,
des bénévoles. Qui m'ont aidé. Avant, qui m'ont trouvé, c'est-à-dire tous ces cahiers, les fournitures que lui, il a vraiment dit. Et voilà, pendant cela, j'ai fait moi aussi, je me suis débrouillé de Cazenave au CIO, à faire mes textes. Et après, mon niveau qu'ils ont vu, ils m'ont directement placé, c'est-à-dire recteur de Paris. Et après ça, ils m'ont mis au lycée. Du coup, j'ai commencé, c'est vers le second trimestre là, qui est maintenant l'ASE, a été appelé au cours d'appel. Qui est maintenant, et ils m'ont pris, ils m'ont placé à l'hôtel 2 mois. Et après, maintenant, je suis au foyer. Et jusqu'à présent, je n'ai pas encore une référence ni une référence aussi.
Et avec cette vie quotidienne très compliquée, tu passes quand même en première scientifique. Hein.
Oui.
Tu comptes passer en première scientifique.
Je compte par rapport aux moyennes que j'ai eues du premier trimestre, 14 et quelques. Et maintenant, j'ai encore 15 de moyennes encore.
Ça marche bien pour
et
toi.
Et là, j'ai eu un avis favorable par le lycée. Et du coup, ça, j'ai un espoir.
Le dossier scolaire, pour vous, c'est quelque chose d'essentiel dans la situation où vous êtes, d'avoir un bon dossier scolaire?
Moi, je peux dire que oui, quand on a vraiment un bon dossier scolaire, ils ont plus de courage de nous aider. Ce ne sont pas des jeunes qui veulent faire autre chose qui n'est pas le travail, peut-être un jour. Du coup, avec ces projets-là, avec ces notes que nous avons, il dit que vraiment, lui, il est sérieux, il faut qu'on l'aide. Mmh. Même si, après ses 18 ans, même ça t'aidera aussi plus pendant la demande de contrat jeune majeur. Mais pour nous, par exemple, qui ont avec ces appréciations, félicitations à chaque fois, dès qu'on les propose, c'est facile pour nous vraiment d'avoir 3 ans plus, s'il faut même plus aussi. C'est pourquoi on se bat nuit et jour pour vraiment faire le bon travail afin d'être aidé jusqu'à un moment qu'on soit vraiment indépendant.
Amara Makoul, je vous sens extrêmement prise par les témoignages de Moussa et de Mohamed.
Ben oui, parce que c'est très intéressant d'entendre cette soif d'apprendre, parce que c'est vrai que dans la plupart des pays d'origine des migrants, il y a un problème de scolarisation. Je pense par exemple notamment à la Syrie en guerre, dont viennent la majorité des migrants, des réfugiés, où on parle maintenant d'une génération perdue, parce qu'elle n'a pas pu aller à l'école, etc. Donc oui, en effet, c'est intéressant de voir des jeunes qui, comme Moussa, disent se battre nuit et jour pour avoir un bon dossier scolaire, malgré toutes les difficultés qu'ils ont, qui sont même assez basiques, acheter des fournitures.
Quelle est la situation des mineurs isolés dans le reste de l'Europe?
Alors, on n'a pas énormément d'informations sur l'ensemble de l'Europe. On peut parler peut-être de l'Allemagne plus, parce que c'est le pays, on peut dire qu'il a plus fait pour les migrants en général et donc pour les mineurs que d'autres. Je pense que c'est assez inégal dans l'ensemble de l'Europe. Par rapport à la France, il me semble que l'Allemagne a une structure plus organisée pour les mineurs isolés. De ce que je sais, et encore une fois ça concerne les personnes qui viennent de Syrie isolées, la prise en charge par exemple pour les mineurs syriens est plus rapide en Allemagne que pour les migrants majeurs. La tâche leur est plus facilitée. Ils sont d'abord dans un camp pendant une certaine période, et dans ce camp ils ont des cours de langue déjà en allemande, et puis des associations les aident à faire leur démarche, et ensuite une fois qu'ils ont le statut en fait de mineur isolé ou même de réfugié, il me semble, est obtenu beaucoup plus rapidement quand on est un mineur que quand on est un majeur en Allemagne. Et après, on les aide aussi à trouver l'inscription à l'école, et tout ça.
Priorité,
ils sont aidés pour ça.
Aux plus jeunes. Ouais. Rosane Lebert, on sent tout de même dans votre livre, dans vos carnets de route, une impuissance, un immense découragement.
Oui, alors, il y a à la fois un immense découragement et à la fois un immense espoir. C'est assez ambivalent dans ce bureau-là. On peut avoir de très très grandes victoires et après de très très grandes déceptions, mais il n'y a jamais de neutralité. C'est toujours effectivement très intense.
À quoi ressemblent-elles, ces victoires?
Quand un jeune est reconnu mineur isolé, par exemple, qu'il est placé dans un vrai foyer de protection de l'enfance et pas à l'hôtel, qu'on revoit 2 mois après, qui a appris le français, qui est le premier de sa classe comme la plupart d'entre eux, et où on sent qu'ils vont mieux. Moi, j'ai vu des jeunes vraiment rajeunir, même physiquement. Je me souviens d'une jeune fille que j'ai recroisé 3 mois après, je ne l'ai pas reconnue parce que physiquement elle avait retrouvé le visage de ses 15 ans, alors que quand je l'avais vue la première fois, elle était devenue vieille physiquement parce qu'elle avait vécu, et c'était terrible. On sentait que c'était une jeune fille mais qui avait vieilli trop vite. Et du coup, ces victoires-là, elles sont très très importantes, mais à la fois, à côté, il y a énormément de déceptions. Effectivement, quand on doit annoncer à des jeunes qui vont dormir dehors, alors même que la loi exige qu'ils soient hébergés, ou quand le statut leur est refusé, parce qu'on sait que c'est une vie de galère qui va commencer pour eux.
Mohamed, Moussa, comment vous envisagez votre avenir déjà? Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Mohamed, toi qui as 17 ans.
Oui, moi je suis en seconde professionnelle en système numérique. J'aimerais bien continuer dans ce filière.
Et comment tu te vois exactement dans quelques années?
Déjà, ça commence à améliorer malgré tout. Ça a été difficile au début, mais j'espère qu'il va bien passer.
Et toi, Moussa?
Moi aussi, comme c'est un peu compliqué, pas comme par rapport à lui, comme aussi dans le cas général, c'est un peu compliqué à dire quelle filière je veux. J'ai tellement découvert de différentes matières.
Du coup, tu sais plus où donner de la tête, voilà, il y a trop de choix.
J'aime tellement les matières, même il y a un prof qui me demande, Younsa, quelles sont les matières que tu préfères plus? J'ai dit, moi j'aime toutes les matières que le prof me donne. J'ai une curiosité de découvrir tout ce qu'on nous apporte. Et du coup, en ce moment, même pendant le choix, après la moyenne que j'ai eue, il y a d'autres même profs qui disent, bon, toi on te voit bien en S, d'autres disent qu'on te voit même en économie. J'aime tellement l'économie, du terme d'économie, quand j'ai d'économie un peu politique. Pas forcément ça, mais sur l'idée de partage humanitaire, c'est-à-dire en termes économiques, de venir à l'aide. Pour moi aussi, les gens sont venus, comme la France par exemple, qui nous ont aidés. Et un jour que moi aussi je puisse participer, c'est-à-dire à mettre mon grain de sel, pour venir au secours des autres personnes qui n'ont pas ces moyens-là. Pour le moment, ce n'est pas une idée directe de ce que je veux, mais j'ai envie vraiment d'étudier de plus, de faire de longues études si c'est possible, afin d'être vraiment un jour un grand qui viendra relever le défi de tout le monde entier s'il faut, si c'est possible.
Un
parce
grand.
Que if you want, you can, d'après les Anglais.
Un grand, mais vous êtes déjà des grands tous les deux. Merci en tout cas d'être venus tous les deux. Mohamed, Moussa, 17 ans. Longue vie à vous, beaucoup de succès, beaucoup de courage aussi. Merci à vous, Rosane Lebert, de rêve et de papier, 547 jours avec les mineurs isolés étrangers. Et c'est publié chez La Découverte. Et merci à vous, Amara Makoul, rédactrice en chef adjointe à France 24, en charge du site Info Migrants, donc en français, fr.infomigrants.net, mais aussi à découvrir et à faire passer l'info en anglais et en arabe.
Et sur Facebook et Twitter.
Bien
et
sûr. Voilà, les mêmes articles hein, qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Information vérifiée et fiable. Merci à toute l'équipe, Cécile Lavolo, Camille Nérand, Hugo Violas, Romain Dubrac. Demain, 7 milliards de voisins, nous parlerons des carrières des femmes et du plafond de verre. À demain les voisins et les voisines.